Alors, je vous cache pas que j'ai eu un petit peu du mal à condenser toutes mes idées et puis à même finir cette prédication. Alors, par où commencer ? J'avais à cœur, suite à notre lecture de Hébreux en commun, que nous avons eu le mois dernier, de partager avec vous un passage d'Hébreux, justement, et une partie des passages d'Hébreux. Mais donc, le premier passage que je vais partager avec vous, c'est Hébreux 3, du verset 12 à 13. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Alors faites attention, frères et sœurs, dans ce passage ici, on a une exhortation, on a une vigilance à veiller sur notre cœur afin qu'il ne devienne pas mauvais et incrédule ou encore qu'il ne s'endurcisse pas trompé par le péché, ce qui aurait pour conséquence de nous détourner du Dieu vivant. On a effectivement à craindre pour notre foi. Car, comme on l'a pu le chanter dans les chants, les tentations, les épreuves, les mauvais désirs, les occupations ou le découragement nous guettent. Et ça nous guette tous. Et sans avoir des encouragements dans nos vies, sans une vie de foi stimulante, nous risquons de nous détourner du Dieu vivant. Je rappelle ce verset d'1 Pierre 5, versets 6 à 10, qui nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » J'avais déjà partagé sur cette inébranlabilité que nous avons dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est plus sur l'encouragement que je voulais partager. Veillez, résistez au diable qui rôde prêt à rugir. Il y a dans nos vies moult façons d'être trompés par le péché parce que le diable est tel un lion rugissant et il cherche dans les moindres coins de nos vies à bondir sur la moindre occasion de nous faire chuter. Chaque jour, et pour chacun d'entre nous, vous le savez, se livre un combat. Le combat entre le bien et le mal, entre le charnel et le spirituel. C'est pourquoi je pense qu'il est primordial d'être encouragé, et ce, quotidiennement, pour obtenir des victoires. La victoire, on le sait, Jésus l'a déjà acquise à la croix, et nous obtenons cette victoire grâce à notre foi. Mais tant que nous vivons sur cette terre, nous devons encore livrer bataille, car le péché nous entoure et nous enveloppe, comme on le lit dans Hébreux 12 au verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il faut peu pour mal faire, car le péché nous enveloppe facilement, il est dit. Mais avec de la persévérance, en courant dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards fixés sur Jésus, bien entourés, j'ai envie de dire, et encouragés, eh bien nous aurons des victoires. Et nous rejoindrons Dieu dans la présence de Jésus à la droite du Père. Alors aujourd'hui, là maintenant, dans cette circonstance, il est facile de dire ça. Parce qu'on est ensemble justement. On est au culte ici et on est physiquement ensemble. Donc c'est facile de s'encourager quand on est ensemble. Le culte, c'est l'occasion de se réunir et de nous encourager Mais comment on peut s'encourager les autres jours de la semaine puisqu'il est question de s'encourager chaque jour, quotidiennement? Il y a dans le premier passage d'Hébreux que je vous ai lu une notion de responsabilité vis-à-vis des autres. Il est dit « Encouragez-vous les uns les autres, chaque jour ». Dans le premier d'ailleurs verset que je vous ai cité en introduction, celui qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, et faites cela d'autant plus que vous voyez que s'approche le jour ». Alors, il y a cette notion de ne pas abandonner justement nos assemblées, et donc justement d'être ensemble les uns et les autres. Et je réfléchissais à cette question l'autre jour, et je réfléchissais à la question de la vie de l'Église et du témoignage local. La vie de l'Église, elle se vit dans l'Église. Donc il faut y être, etc. Et il faut être dans ce témoignage local. Mais je me rendais compte que c'était parfois difficile d'avoir un témoignage local et une vie d'Église quand on n'est pas à côté de l'Église ou quand on n'est pas à proximité. Et donc c'était une réflexion que j'avais et je me disais aussi justement que peut-être que c'était à moi aussi de proposer des groupes de maison, des clubs, etc., comme on a déjà pu le faire, à Péranchy directement, chez nous, pour avoir des églises locales, en fait, des lieux de rassemblement locaux, où est-ce que du coup on va pouvoir s'assembler et s'encourager mutuellement. Alors je vous ai dit, on a regardé le film « Jesus Revolution », et donc c'est un film qui parle du réveil parmi les hippies dans les années 60, avec une apogée dans les années 72, que certains d'entre vous ont peut-être pu connaître. Et du coup, justement, il y avait cette question de vivre ensemble. Ils ont formé une communauté, une collectivité, et donc ils s'encourageaient les uns les autres. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on vit aussi quand on va en colonie. Quand on va aux colonies, on est vraiment encouragé à la suite de ces camps, parce que du coup, on est ensemble. Et on vit ensemble toute la semaine, toutes les deux semaines, et on fait des choses ensemble, et on vit la grâce de Dieu ensemble. Et j'ai envie de dire que c'est des moments comme ça qui sont encourageants. Je pensais notamment aussi au réveil d'Asbury, où les gens se sont assemblés, ils se sont regroupés, ils étaient ensemble, et du coup ça a permis justement d'avoir une rayonnance. Alors je dirais que nos familles, elles sont des petites églises, au sein desquels il est important de s'encourager et au sein duquel on s'encourage dans la foi. Toutes les rencontres qu'on a avec d'autres chrétiens, c'est aussi des occasions de s'encourager. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas la chance d'avoir d'autres chrétiens autour d'eux. Alors comment s'encourager dans ces circonstances-là? Eh bien aujourd'hui, il y a des moyens qui nous sont mis en place et qu'on a. Il y a des moyens de communication comme le téléphone, les mails. On peut aussi avoir la possibilité de s'inscrire à des newsletters afin d'être encouragé aussi par le témoignage des autres. Ou encore, je dirais une chose importante, rendre visite à des frères et sœurs. Après, il y a d'autres choses qui sont plus personnelles, je dirais, mais comme la lecture de la parole de Dieu ou l'écoute de musique. Et ça va permettre aussi de nous encourager. Et donc, je reviens à rendre visite à des frères et sœurs. Alors j'aimerais vous donner deux exemples qui manifestent l'importance des autres dans notre vie. Le premier, il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 6, mais je vais le lire un petit peu en amont, je pense. 2 Corinthiens 7, du coup. Je vais commencer plutôt parce qu'en lisant, justement, je me suis rendu compte qu'il disait des choses intéressantes. Faites-nous une place dans votre cœur. Donc, il parle bien des autres, comme quoi les autres doivent faire une place dans leur cœur pour eux. Nous avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur à la vie, à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai toute raison d'être fier de vous. Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite. Donc il dit ça justement, faites-nous une place dans votre cœur. Et il y a une réciprocité puisque Paul dit... Vous aussi, vous êtes dans notre cœur, à la vie, à la mort. Et donc, il est consolé, l'apôtre, dans sa situation, dans ses difficultés, dans ses labeurs, il est consolé par l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de Tite. Et il y a un autre passage qui se trouve dans 1 Samuel 23, versets 16 à 17. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David pour affermir son courage en Dieu. Il lui dit : Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Alors pour vous donner le contexte, Saül il a attaqué les Philistins mais il va se réfugier chez les... je ne sais plus le nom du peuple. Il va se réfugier dans un autre peuple mais il a peur que ce peuple le livre à Saül. Et donc du coup il est dans la crainte. Il est dans la crainte et Jonathan qui est le fils de Saül vient le rejoindre et vient affermir son cœur de courage en Dieu. Et donc on voit ici deux exemples de deux personnes, et je signalerai quand même que Paul et David, c'est pas n'importe qui dans la Bible non plus, c'est des figures bibliques. C'est un apôtre qui a écrit bon nombre d'épîtres que l'on a, et c'est un roi selon le cœur de Dieu. Et donc ces deux personnes, tout aussi fortes soient-elles, sont confrontées à une difficulté et ont eux-mêmes besoin d'être encouragées. Et cela s'est fait comment ? Par la venue d'une personne. La présence d'une autre personne à leur côté dans ce moment quand ils en avaient besoin pour être encouragés. Et donc je relève ici l'importance aussi de s'occuper et de s'intéresser des autres et d'aller vers eux. Alors, bien sûr, il y a cette notion d'aller vers les autres, vers les perdus notamment, parce que c'est une mission qui nous est confiée. Mais il y a aussi cette mission qui nous est confiée d'aller prendre soin de nos frères et sœurs en Christ et d'aller vers eux parce que eux aussi ont besoin d'encouragement. Chacun d'entre nous devrait alors se poser la question : comment puis-je être un sujet d'encouragement pour mon frère ou pour ma sœur ? Alors derrière ces questions, je pense qu'il y a véritable ministère pour encourager, inciter à persévérer et apporter un soutien. Un ministère un petit peu d'altruisme, où on se soucie du bien-être des autres, d'autrui, mais de manière désintéressée. Ce ministère, c'est le ministère d'encouragement. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites « Prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir. » Ça se trouve dans Ésaïe, au verset 35, chapitre 35, versets 3 et 4. Prêchez Dieu, apportez la bonne nouvelle, c'est la solution pour affermir les gens qui sont dans la difficulté. Ce don d'encouragement, Paul, il nous en parle dans Romains 12, versets 6 à 8, où il dit que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et donc il y a un exemple biblique de ce don d'encouragement qui est personnalisé dans la personne de Joseph, que les apôtres ont appelé Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». On voit ce passage dans Actes 4 au verset 36 où Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Je me rappelle une fois un échange avec Jonathan. En fait, il avait entrepris de faire des messages, des partages sur l'Apocalypse. Et donc, du coup, je lui avais envoyé un petit message pour lui dire « Écoute, j'ai été encouragé par la plupart. » J'ai pas tout lu, mais j'ai été encouragé par la plupart. Et donc, je t'encourage dans ces études que tu nous apportes. Et du coup, il m'avait répondu un message en me disant « Merci pour ton encouragement. Toi aussi, tu es un fils d'exhortation. » Et je me rappelle de ça. Et c'est le Seigneur ici, il nous parle au travers de ça aussi, des échanges qu'on peut avoir avec les frères et sœurs. Et donc, on a été un sujet d'encouragement mutuel. Lui m'a encouragé et en retour, j'ai été encouragé par son message. Enfin, j'ai moi-même été encouragé et j'ai encouragé du coup Jonathan au travers du retour de ce message. Donc, pour revenir à Joseph ou à Barnabas, on voit dans Acte 9 au verset 27 que juste après la conversion de Paul, il va vers lui et l'introduit dans une église qui se méfiait de lui. Dans Actes 13, 43, on voit que Barnabas encourage les croyants à persévérer dans la grâce de Dieu. On voit dans Actes 15, versets 36 à 41, que Barnabas choisit Jean-Marc comme son partenaire dans le ministère, bien que Jean-Marc les avait précédemment abandonnés, et donc il lui donne une seconde chance. Et tout au long de son ministère, il manifeste le don d'encouragement en aidant, en réconfortant, en encourageant les autres à devenir de meilleurs disciples de Christ. Je reprends les propos de God Question. Il dit « Le don d'encouragement ou d'exhortation est différent du don d'enseignement en ce qu'il s'agit de l'application pratique de la parole de Dieu. Alors que le don de l'enseignement s'intéresse plutôt à son contenu et à son sens, une personne ayant le don d'encouragement fait preuve de compréhension et d'empathie pour guider les autres, individuellement ou en groupe. Là où l'enseignant montre la voie à suivre, celui qui exhorte aide les autres à suivre cette voie pour passer du pessimisme à l'optimisme. » En recherchant un petit peu aussi, il y a le mot « paraclète » qui ressort, ou « appeler quelqu'un à ses côtés ». Il est intéressant de voir que Jésus aussi, avec ses disciples, la nuit de son arrestation, il a décrit le Saint-Esprit comme le « consolateur » ou « paraclète ». Et c'est pour cela qu'il est parfois appelé donc le « paraclète », celui qui vient à nos côtés pour exhorter et encourager. C'est vrai que quand j'entends parler de la vie des gens, je me rends compte que beaucoup de personnes souffrent et qu'ils vivent des choses difficiles. C'est sûr, nos vies, elles sont parsemées d'épreuves et notre âme se décourage facilement. Que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens. D'où l'importance de ce ministère d'encouragement. Je vais faire un petit aparté parce que je ne voudrais pas minimiser l'importance de vos difficultés, mais je me rends compte que malgré tout, on est privilégié dans la vie qu'on mène. Ma sœur Margot, elle est partie au Népal, en mission, et elle nous partage son aventure au travers de témoignages et de photos. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à lire sa lettre de nouvelles. Et il y a dans le monde des gens qui n'ont rien et qui vivent vraiment simplement. Pourtant, sans le savoir, dans leur pauvreté, eux sont un encouragement pour les autres. Ma sœur Margot, elle disait « Jamais plus je me plaindrai de la France » jusqu'à temps qu'elle revienne. Je regarde moi régulièrement des reportages sur France 5 ou sur Arte. J'aime beaucoup tout ce qui est autour des voyages, des découvertes, des documentaires. Parce que pour moi, c'est un peu une manière de vivre l'aventure. Et ça me permet donc de voyager et de découvrir d'autres cultures. J'aime savoir comment vivent les autres personnes. Et ça me fait toujours penser justement au fait que moi, je suis quelqu'un de privilégié. Et ça me permet de pas l'oublier. Parce que quand on se rend compte de la vie de certaines personnes, des circonstances des gens, de comment les gens vivent, eh bien, on se rend compte que nous, en fait, même si on a des malheurs, on est quand même du bon côté de la planète. On est quand même privilégié. Et donc, quand je vois comment vivent certaines personnes, je me rends compte de la chance que j'ai. Et je suis reconnaissant envers Dieu pour ma vie et pour ce que j'ai. Alors cela n'empêche pas d'avoir des problèmes et d'être confronté à ces difficultés et donc de devoir les affronter. Mais indirectement, je trouve que ces problèmes, ils s'amenuisent un petit peu. Et je remercie Dieu pas tant pour le matériel, pas tant pour ce que je possède, mais vraiment plutôt pour la paix qui règne dans mon pays. Et pour la facilité qu'on a de vivre notre vie. Parce qu'on n'est pas inquiété dans notre pays, on n'a pas de grosses difficultés, même notre foi on peut la vivre et on n'est pas inquiété pour notre foi. D'ailleurs j'ai même souvent le sentiment que pour être plus heureux, il faudrait que je me dépouille. J'ai de plus en plus le sentiment et même la certitude que le confort n'est pas bon pour l'homme, que celui-ci nous éloigne même de Dieu. J'ai l'impression que le progrès nous a fait régresser, parce qu'on compte sur notre richesse. L'autre jour, je parlais avec un kinésithérapeute du travail et il est arrivé avec un claquage à la jambe suite à une course de 25 km mal préparée. Et puis, on parlait de chaussures, de douleurs au tibia, suite à des mauvaises chaussures, justement. Sachez d'ailleurs que maintenant, il existe des chaussures qu'on appelle des chaussures de type minimaliste. En fait, c'est simplement une chaussure en forme de chaussette dans laquelle ils font rentrer les pieds. Et en fait, en gros, il y a juste un revêtement pour protéger la plante des pieds, mais ça permet de courir différemment. C'est-à-dire que moins de confort, mais une course plus adaptée. Le kiné, il mettait en avant que les chaussures et leur amorti, ça nous faisait courir pas normalement parce qu'on attaque plein talon, alors que normalement, si on n'avait pas de chaussures, on n'irait pas taper le talon comme ça sur le sol parce que ça nous ferait mal. Alors, pour vous redonner une autre idée, il nous partageait aussi que les toilettes, c'était simplement un élément de confort qui nous rendait handicapés prématurément. Parce qu'à l'état sauvage, si je puis dire, enfin, de manière naturelle, les Turcs, etc., ils avaient fait des toilettes comme ça, on serait obligé de se baisser du coup et d'utiliser nos muscles et de maintenir du coup notre corps en forme et d'avoir du coup même la bonne position pour aller aux toilettes. Bref, tout ça pour dire que le confort n'est pas toujours à notre avantage. Et pourtant, on aurait bien du mal des fois à s'en passer. Le confort, la richesse nous font compter sur nos propres forces, sur nos ressources à nous, en nous faisant des fois oublier notre dépendance à Dieu. Le confort dans la vie chrétienne, il peut parfois nous faire stagner. Avec mon père, l'autre jour, on se disait, tiens, ma sœur, elle est partie à Katmandou pour évangéliser avec une petite équipe. Ils ont dû faire 16 heures de bus, plus quelques heures dans la jungle pour atteindre un village éloigné pour aller apporter de la littérature. Une fois sur place, la police les a vus, ils étaient pas contents parce que là-bas, on n'a pas le droit de témoigner de sa foi. Enfin, on a le droit de témoigner de sa foi, mais on n'a pas le droit de faire de prosélytisme, donc de partager la parole de Dieu, etc. Donc là, ils fournissent de la littérature et puis ils racontent leur témoignage. Donc ça, ils ont le droit, mais ça plaît pas forcément à la police. Et donc, de ce fait, ils ont pas pu rester dans le village où est-ce qu'ils devaient aller. Autant de route pour rien. Et donc, ils ont été dans un autre village encore plus loin pour aller évangéliser. Et nous, on se rendait compte que, mince, ils ont fait 16 heures de route, plus je sais pas combien d'heures de à pied dans la jungle, et nous, on a du mal à aller ne serait-ce même que dans notre ville ou dans la ville voisine pour aller évangéliser. Alors on se disait, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des croyants? Comment ça se fait que on va à Katmandou pour aller évangéliser, mais que nous ici, on a des fois du mal à aller distribuer les calendriers ou aller partager la bonne nouvelle? Est-ce qu'on est endormi? Est-ce qu'on manque de foi? Est-ce qu'on manque de courage dans notre foi? Alors je dis ça, c'est un peu à notre honte, hein. Mais je veux pas vous accabler, parce que c'était pas l'idée de cette prédication, je veux pas devenir pessimiste, c'était vraiment l'idée de vous encourager. Mais j'avais une pensée aussi, c'est que rien ne change. C'est-à-dire que trop souvent, j'ai envie de bien faire, je suis bien disposé et je me rends compte que rien ne change. Qu'est-ce qu'il faudrait dans ma vie pour que vraiment je mette en application ce que j'ai envie de faire pour le Seigneur? Parce qu'il y a trop souvent des fois où on est là, on se dit « Ah, il faudrait faire ci, ou je devrais faire ça, ou je pourrais faire ça, ou je pourrais aller donner un coup de main à mes frères et sœurs qui sont en train d'évangéliser, et puis on le fait pas, parce qu'on est pris dans le quotidien, parce qu'on a d'autres occupations, etc. » Mais voilà, il faut aussi savoir être encouragé et s'encourager mutuellement, parce que quand on est plusieurs, eh ben, ça fait quand même du bien, ça fait quand même chaud au cœur de se dire « Bah voilà, on n'est pas tout seul. » Donc les autres, ils viennent, et du coup là, on redouble d'efforts et on a plus de motivation. Alors, je voudrais vous encourager et je vais vous partager une petite anecdote que j'ai reçue il y a de ça quelques semaines. J'ai reçu un message d'un jeune de Péranchy, donc un numéro que je connaissais pas. Je reçois un message et puis il me dit « Salut, c'est Mauro !» Je vous ai dit son nom, mais voilà. « Est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on discute, etc. ?» J'ai des questions à te poser. Et donc, en fait, en gros, il me contacte parce que suite à une difficulté, il s'est décidé de se recentrer un peu sur la religion, etc. Et puis, il a acheté des livres. Il a acheté, par exemple, « Vivre pour Jésus ». Des livres qui sont chrétiens et d'influence protestante, parce que c'est des protestants qui les ont écrits, etc. Et donc, du coup, suite à ces lectures, il a des questions à me poser, parce qu'il a des sujets de questionnement. Et alors, du coup, on discute, on parle, etc. Puis, pour en finir, on a mis presque une heure à discuter. On devait regarder un film avec mon épouse, mais on a mis une heure à discuter avec ce jeune. Et puis, du coup, après, on a été se coucher. Et j'ai reçu ça vraiment comme un encouragement. Ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que ce jeune, il a vu en moi aussi une référence, quelqu'un qui pourrait apporter des réponses à ses questions. Et plus encore, c'est même pas ça que j'ai été encouragé, c'est par le fait que j'ai été encouragé par son cheminement. Ce jeune, il a eu une difficulté et du coup, il a voulu se recentrer sur l'évangile. Alors, il est plutôt d'origine de confession catholique, etc. Mais c'est un jeune qui cherche avec son frère parce que c'est ses origines, parce que c'est les grands-parents qui étaient chrétiens catholiques. Mais du coup, ils se cherchent et du coup, ils vont à l'église, etc. Ils sont venus plusieurs fois au groupe de jeunes, tout ça, etc. Et j'ai été encouragé par sa démarche, justement, de foi. Et en même temps, j'étais content donc de voir que pour lui aussi, Dieu était un refuge dans un moment difficile et ça m'a reboosté. Et alors, on a besoin d'encouragement de la sorte comme le dit le verset. Romains 10, versets 13 à 15 nous dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et j'ai envie de paraphraser aussi parce que comment les gens autour de nous vont recevoir des encouragements si nous, nous n'allons pas leur apporter des encouragements ? Je me rends compte qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche. Ce jeune, il y a une jeune stagiaire qui est chez nous aussi en ce moment, qui est française, etc., mais qui est reconvertie à l'islam. Parce qu'en allant chez une amie qui était musulmane, etc., elle a trouvé quelque chose qui l'intéressait. Elle a trouvé une paix, elle a trouvé quelque chose qui vraiment l'a attirée. Et donc du coup, elle s'est reconvertie à l'islam. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je vois qu'en fait, il y a quand même des gens qui sont encore en recherche. Et comment ces gens, ils vont entendre parler de la parole de Dieu ? Comment ils vont être encouragés à suivre Jésus si on va pas vers eux ? Il y a un dessin animé qui m'a fait prendre conscience que dès le début de sa vie, Jésus, sa vie, elle n'a pas été facile. On le sait, je le sais, mais vraiment, en fait, dans ce dessin animé, c'est Superbook. Il disait, Jésus, il est déjà né dans une étable alors que c'était le roi de la terre. Donc déjà, la circonstance de sa vie, c'est que Jésus, il est né par une femme, Marie. Quand elle est arrivée, Marie, pour le recensement à Bethléem, elle arrivait, il n'y avait déjà pas de place pour elle. Donc il n'y avait pas de place pour Jésus. Il n'y avait pas de place pour cet enfant, etc., en tout cas pour cette femme qui allait accoucher. Et donc, ils ont dû aller accoucher, enfin, Marie a dû aller accoucher dans une étable avec les animaux. Et puis tout ce qu'il y a avec, du coup, sûrement les excréments, les trucs comme ça, etc., quoi. Donc déjà, Jésus, dans son arrivée au monde, sa vie, elle n'a pas été facile. Elle a été empreinte de difficultés. Après, il a grandi dans une famille, je pense, tout à fait normale, donc pas aisée. Et puis, en plus, on voit après que sa vie, elle a été difficile parce que même s'il a été accepté par une partie, les disciples, etc., et certains qui ont suivi Jésus, la plupart des gens l'ont rejeté et méprisé. Homme de douleur, rejeté et méprisé. Mais Jésus, il a toujours été encourageant, il a toujours été optimiste. C'était sa mission sur terre. En Jean 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Alors j'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que vous êtes prêts à être des fils et des filles d'encouragement ? Est-ce que vous êtes prêts à être des Barnabas ? Je me suis même demandé si on ne pourrait pas lancer un défi Barnabas. Il y a le défi Miché qui pense aux pauvres et il y a le défi Barnabas. Je me dis qu'on pourrait lancer un défi Barnabas où ce serait un ministère d'encouragement pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, en allant vers eux, parce qu'il y a cette question d'aller vers les autres et de cette proximité. C'est-à-dire qu'on est tous bien chez nous, c'est sûr, parce qu'on est dans notre petit foyer, on est dans notre cocon familial, etc. Mais il faut aller vers les autres. On dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort et que la vie, en ce moment justement, au travail, ils ont mis un projet en avant où est-ce qu'ils disent justement « la vie, c'est prendre des risques ». Si les personnes âgées, elles restent chez eux comme ça, enfermées et devant la télé, elles prennent pas de risques. Et donc du coup, petit à petit, elles perdent en force, elles perdent en moyens, elles perdent en cognitivité, etc. Parce qu'elles sont plus confrontées à la réalité de la vie et elles sont plus sollicitées. Et la vie, c'est prendre des risques. La vie chrétienne, c'est aussi prendre des risques, j'ai envie de dire, mais c'est des risques mesurés. Mais donc des risques, c'est sortir de chez soi aussi et puis aller encourager, aller à proximité de ceux qui en ont besoin. Je vous laisse avec une dernière parole que j'avais reçue aussi de Jean-Louis, un aumônier qui était venu ici. Et puis je lui avais dit, comment vous faites pour avoir des paroles comme ça qui soient aussi encourageantes et qui soient motivantes ? Et il m'avait donné ce passage qui m'a marqué. C'est le passage d'Ésaïe 50 au verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. » Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Si on écoute comme des disciples, on va appliquer ce que Jésus veut qu'on mette dans notre vie. Si le Saint-Esprit est notre paraclète, qu'il est près de nous et qu'il est notre consolateur, il nous donnera le courage d'aller affronter, d'aller rencontrer ces gens qui sont autour de nous qui ont besoin de ça. Et même dans les foyers chrétiens, j'ai envie de dire. C'est vrai que des fois, on se concentre sur l'évangélisation à l'extérieur, mais c'est bien. Mais il ne faut pas oublier aussi les frères et sœurs qui passent aussi par des difficultés. Et donc, c'est important aussi de peut-être prendre le temps de le faire. Moi, je sais que je ne le fais pas forcément beaucoup non plus et tout ici, mais je sais que je devrais le faire davantage. Et donc, ce n'est pas pour accuser les gens qu'on est ici, mais c'est vraiment pour vous encourager et pour vous rebooster dans ce ministère d'encouragement. Alors, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Soyez des Barnabas, des fils et des filles d'encouragement, des fils et des filles d'exhortation envers vos frères et sœurs, envers votre famille, mais envers aussi les gens qui vous entourent dans le milieu du travail, etc. Et saisissez les occasions qui vous sont données d'encourager les personnes. Et encourager, ce n'est pas forcément toujours partager la parole de Dieu, mais simplement dans une difficulté avec un collègue peut-être, ben simplement le fait d'être là ou de lui apporter une bonne parole, eh bien ça peut être important. Il y a des gens qu'on croise dans la vie, des fois j'avais déjà entendu dire que simplement le fait de sourire à quelqu'un ou de saluer quelqu'un dans sa voiture, ça peut déjà être une source de bénédiction, d'exhortation pour cette personne qui est peut-être en difficulté et pour qui ça sera justement un encouragement. Alors saisissez les occasions de sourire, saisissez les occasions de saluer et d'apporter une bonne parole à ceux qui vous entourent.